Québec. Vous écoutez Mon Grain PM.
Tout juste avant d'aller retrouver le directeur général de la STM, M. Luc Tremblay, on va s'entendre avec Pascal Caron-Vézina, notre journaliste à Cogeco, parce que de nouveaux développements dans l'affaire de la disparition de Nora et de Rumi. Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Luc. Un peu plus tôt, je vous parlais du fait qu'on avait changé le poste de commandant, l'endroit où on est dirigé en ce moment pour récolter de l'information. Et on se demandait pourquoi. La Sûreté du Québec disait qu'il y avait eu des informations confidentielles qui nous avaient amenés ici. Et en discutant avec des voisins, on comprend que ce peut être des cris d'enfants qu'on aurait entendus cette nuit. Je vous laisse entendre une voisine, Madame Eva Dubois.
Crier, moi je pensais que c'était la petite fille du voisin qui faisait des cauchemars. Les symptômes de la Tourette, des fois elle crie. Fait que j'ai pas fait attention à ça. Puis je dors dur, fait que je me suis rendormi. Et puis ce matin, ils sont arrivés, ils m'ont demandé si j'avais entendu des bruits dans le milieu de la nuit. J'ai dit non. Mais bien après coup, je m'en suis rappelé. Mais lui, il a entendu des bruits, puis il s'écriait, là, ça a duré longtemps. Non, le voisin, mon voisin. Okay. Il a entendu crier. Fait que là, il s'est inquiété, là, ça l'arrêtait plus. Sa femme a sorti dehors. Sa petite fille, il l'a entendu en premier. Puis elle dit, il dormait pas. Elle dit, papa, tu as entendu ça? Fait qu'ils ont sorti dehors, puis ils ont écouté ça pendant une dizaine de minutes. Puis là, ça a l'air que c'était... Là, ils trouvaient ça louche, là, que c'était des cris persistants, là, puis comme quelqu'un qui est agressé, qui ont appelé la police. À 7 heures le matin, moi, ils sont arrivés.
Alors donc...
ce ne sont pas des informations que la Sûreté du Québec a confirmées, mais c'est des choses que les voisins ont entendues cette nuit. Et je termine en vous disant que la Sûreté du Québec, par contre, vient de nous mettre au courant que Cathy Gingras, la conjointe de Martin Carpentier, qui n'est pas la mère des enfants, vient d'enregistrer une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux de la Sûreté du Québec dans les prochaines minutes.
Parfait. Merci beaucoup de ces informations. S'il y a autre chose, n'hésitez pas et revenez-nous, Pascal.
Merci, au plaisir.
Merci. Luc Tremblay est directeur général à la STM le 13 juillet, ça s'en vient et rapidement. Eh bien, le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du transport en commun à Montréal. Bonjour, M. Tremblay.
Bonjour, M. Mongrain.
Alors, qu'est-ce qui arrive pour ce déconfinement avec masque dans le transport en commun à Montréal? Est-ce que c'est prêt? Êtes-vous prêt?
En fait, on est prêt avec l'information qu'on a. On n'a toujours pas eu le décret là, qui va préciser tout ça, mais au-delà de ça, on essaie d'être en mode proactif. Alors, ce qu'on va faire à compter de lundi, on va accentuer une stratégie qu'on a déjà déployée là, au début mai, qui est de distribuer davantage de masques, là, de couvre-visage. On a déjà distribué 235 000. On va monter ça à 1,5 million d'ici la rentrée scolaire. Alors,
à l'entrée des stations de métro et à l'entrée des autobus.
Oui, un peu partout sur le réseau, stations de métro, autobus. On va aussi en envoyer par la poste pour les gens du transport adapté. C'est une stratégie qui a quand même fonctionné parce que lors de notre première phase de notre plan de déconfinement, au tout début mai, on n'avait personne, évidemment, qui portait le masque dans nos réseaux. Et hier, j'avais les derniers chiffres. Là, on fait des comptages sur le réseau puis on était à 60 % là, en ce moment. Alors, en deux mois, on a quand même progressé. On n'est pas encore où on voudrait être. On devrait être plus élevé que ça, mais on pense que la stratégie a marqué des points et on va l'accentuer au cours des prochaines semaines.
OK. M. Tremblay, la réalité de toutes les autorités, de quelque domaine que ce soit depuis le début de la COVID, fait en sorte que malgré les messages, malgré la répétition, il y a des résistances. Quels seront vos moyens? Parce que là, il y a véritablement une proximité dans le transport en commun. Comment vous allez faire ça? Moins de monde dans chacun des véhicules? Comment ça va marcher?
En fait, une des stratégies aussi qu'on a mis de l'avant puis qu'on continue à mettre en place, c'est qu'on est à plein régime, à plein service, même si l'achalandage est pour rendez-vous. Là. Actuellement, on a à peu près 40 % de l'achalandage régulier, puis on est quand même à plein régime, 100 % de l'offre de service dans nos trois réseaux.
Et les gens portent pas de masque?
Non, là, c'est la deuxième étape. C'est ça qui est ce qu'on disait tout le temps, c'est qu'on est rendu là maintenant là, quand les gens vont revenir et que la distanciation physique va être de plus en plus difficile à respecter, là, le 2 mètres, bien, il faut porter un couvre-visage. On l'a dit depuis le tout début. Comme je disais tout à l'heure, ça apporte des fruits. Là, on a 60 % de notre clientèle qui le fait, mais c'est pas suffisant. Alors, on va accentuer encore une fois la distribution. Je rappelle que c'est gratuit. C'est un masque qui est lavable et utilisable, qui respecte le développement durable. Alors, il n'y a pas de raison que les gens ne le portent pas. On va faire aussi beaucoup de sensibilisation via notre personnel. Nos chauffeurs de bus vont être équipés avec un bouton dans l'autobus pour faire jouer des messages préenregistrés. On va avoir aussi notre personnel qui vont avoir des masques sur eux. Au lieu de donner des constats, on va donner des masques. On va sensibiliser la population via nos agents de station dans le métro, via nos agents de sûreté contrôle. Alors, on mise beaucoup, beaucoup sur la sensibilisation puis la communication. On pense que c'est la meilleure chose à faire dans les
Comment ça vous coûte à date, là, depuis la COVID, là, le transport en commun? Parce que les gens ne peuvent pas payer. Il n'y a pas de transaction qui se fait. Les gens qui sont dans les cabines guérites à l'entrée, ils veulent pas accepter de transaction, ils font rien. Les gens qui veulent payer par leur téléphone, ça marche pas. Fait que, ils font marcher le tourniquet puis ils passent. C'est gratis.
Ben, en fait, la comptée de lundi, c'est ça l'idée. Là, on va reprendre tout ça progressivement. On sait que dans les bus, on installe des barrières pour protéger les chauffeurs. Là, on va reprendre l'embarquement par la porte avant et ça va permettre de reprendre la validation. Même principe dans le métro, on va remettre de l'argent comptant dans les distributrices automatiques de titres. Alors, tout ça, la semaine prochaine, là, ça reprend.
Dans comment ça se fait que ça n'existait pas? Pourquoi c'était pas là?
Ben, c'est une question de sécurité. On nous demandait, la santé publique, là, de faire en sorte de faire entrer les gens par en arrière pour respecter le 2 mètres. Alors là, par la suite, on nous a dit, ben, il faut protéger le chauffeur. Donc, on installe des barrières pour protéger les chauffeurs. C'est des plexiglas, là, de haut en bas. On a 2000 bus à faire. Donc, vous me demandiez le coût. Ben, juste ça, c'est 2,8 millions, là, pour faire la flotte au complet. Donc, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Et vous savez qu'on suit la santé publique. Ça a évolué au fil du temps. Alors, on est rendu là maintenant. Là, on va déployer ça là, progressivement au cours des prochaines semaines et on va être prêt là, pour retrouver
notre
clientèle.
Et pour ce qui est des postes sanitaires avec désinfectants, il y en a beaucoup qui sont endommagés ou il n'y a plus rien dedans, etc., etc. Comment on peut régler ça? C'est pas vrai que si ça, c'est déjà arrivé avec 40 % seulement de l'achalandage, que lorsque les gens vont commencer à reprendre le métro pour retrouver un genre de vie active, qu'on n'aura pas les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Présentement, il y en a beaucoup de manques en ce sens-là.
Bien, vous avez raison. On a 268 distributeurs de désinfectants dans les stations de métro. On a des gens qui font ça à plein temps. Malheureusement, les gens ne savent pas beaucoup, mais c'est la réalité du métro. Il y a beaucoup de vandalisme. On a beau avoir des gens qui surveillent ça. Alors, dès qu'on envoie, on les remplace. Mais on fait ça régulièrement. Il faut les remplacer régulièrement parce que les gens les brisent. Il y a beaucoup, malheureusement, aussi d'itinérance dans le métro qu'on tolère. Alors, il y a des impacts. Alors, notre personnel est là pour faire le travail, mais si on en répare une place, ça brise à l'autre place. Alors, vous avez raison. Quand ça va revenir, on va rajouter du personnel pour s'assurer qu'on va pouvoir le faire le plus rapidement possible. Mais c'est un défi. La clientèle, malheureusement, c'est pas tout le monde qui respecte les équipements. Alors, c'est pas juste les distributeurs. Ça se produit sur d'autres types d'équipements qu'on doit réparer aussi régulièrement.
Quand des décisions comme ça se prennent, la santé publique est consultée, le monde politique évalue les choses. Est-ce que vous avez participé à des décisions pour la reprise du transport en commun?
Oui, ça c'est bien fait. On est dans toutes sortes de groupes de travail, autant avec le gouvernement du Québec, le ministère des Transports du Québec, mais aussi avec la santé publique. Il y a toutes sortes de guides qui ont été publiés par l'INSPQ, par la CSST. On était partie prenante, on était alentour de la table. Alors évidemment, on est consulté pour voir comment on peut faire pour rendre ça plausible dans le quotidien.
Et le scénario du pire, c'est lequel? Parce que quand on fait des projections comme celle-là, il y a quand ça va bien, puis c'est qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas pantoute?
Oui, ben en fait, ce qui nous préoccupe beaucoup, là, c'est le fait qu'on n'a pas beaucoup de clients encore. C'est quand même intéressant. On a récupéré 30 % par rapport au pire de la crise, mais le pire scénario, c'est que les gens ne reviennent pas. Tout à l'heure, vous me parliez quel est le coût de ça. Le coût, c'est il y a des coûts pour gérer la COVID, mais ce qui est le plus dramatique, c'est la perte de l'achalandage. C'est une perte de revenus tarifaires de 90 % pour la STM.
Ça veut dire quoi à peu près?
C'est des centaines de millions de dollars, presque un milliard pour la région métropolitaine au complet de toutes les sociétés de transport. C'est un milliard par année qui est perdu. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé de l'aide, qu'on a obtenu aussi, pas complètement de ce qu'on aurait aimé, mais c'est quand même un bon pas en avant. Mais c'est ça la pire situation. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie pour rassurer les gens.
D'accord. Et je sais que les propriétaires de bars, puis là, je vais faire un parallèle, les propriétaires de bars ont mis énormément d'énergie aussi pour être capables de réouvrir de façon sécuritaire. Et malgré tout, il y a une menace qui pèse sur eux de refermer. Est-ce que ça se pourrait qu'on referme le transport en commun?
Bien, en fait, on était ouvert tout le long. Hein. Ça, c'est une
non,
chose
mais
que les gens,
on s'entend mais avec restrictions.
Oui, effectivement. Et là, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'on dit à tout le monde. On met beaucoup de sensibilisation. On ne voudrait pas revenir en arrière. Ça a été une période assez difficile pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on met autant d'énergie. Vous savez, la base, là, c'est là aussi l'élément sanitaire. On a quadruplé nos niveaux de nettoyage. On n'avait pas le personnel pour faire ça. On a même des employés de bureau et des employés professionnels qui ont réussi à faire des ententes avec les syndicats pour qu'ils viennent nous aider à faire du nettoyage. Et en font encore actuellement. Donc, ça demande beaucoup d'agilité. Et puis, effectivement, si on fait pas ça, on va devoir retourner en arrière et ça sera pas une bonne nouvelle pour personne. Le service du transport en commun, c'est un service essentiel et il faut s'assurer de faire ce qu'on a à faire pour pas qu'on arrive à ces situations-là.
Est-ce que c'est la police du métro qui s'occupe de ça, de voir à sensibiliser les gens s'ils ne donnent pas de ticket ou s'ils donnent pas d'amende, s'il n'y a pas de pénalisation? Comment on expulse quelqu'un? Je vois la bataille, moi, là, de quatre jeunes là, qui sont là. Là puis, nous autres, on s'en va à telle place, on s'en va au bar ou quatre personnes, peu importe. Et puis là, la police intervient pour les expulser du wagon? C'est tout ça qui peut arriver?
Oui, en fait, quand il y a des méfaits de toute nature, on a notre propre personnel. On a 170 agents de sûreté contrôle qu'on appelle qui font respecter les règlements de la STM en tout temps, pas juste en termes de COVID. Là, par contre, on veut pas aller dans un cas d'expulser les gens s'ils n'ont pas de masque. Comme je disais tout à l'heure, on veut insister sur la sensibilisation, mais si le fait que les gens ne le portent pas amène des échauffourées ou toutes sortes de choses qui sont pas acceptables dans le réseau, nos agents de sûreté contrôle vont être là pour faire respecter l'ordre là, comme ils le font habituellement.
Alors donc, ça deviendra quelqu'un qui participera à fouter le trouble.
Oui, effectivement. Ça, c'est inacceptable. Il y a des règlements qui existent en ce moment. On a toute une série de règlements. Puis nos agents travaillent de concert avec les policiers aussi. On a un poste de quartier dédié au métro, le poste de quartier 50, qui aussi, on travaille en collaboration. Donc, il y a une couverture dans le réseau là, qui est bien répartie, mais c'est là pour tout le temps, même qu'il n'y a pas de COVID. Mais on ne veut pas aller dans un mode où on va être en mode coercition pour bloquer l'accès au... Avec le réseau, vous comprenez, j'ai déjà pris le métro, là, 2000 bus, 500 voitures de taxi, 800 et plus tourniquets, ça va être extrêmement difficile à faire appliquer les choses si on veut aller là-dessus.
Là. Alors, moi, je me présente, je suis un négationniste. Le masque, c'est pas vrai, vous me le donnerez pas, même si vous me l'offrez gratuitement. Est-ce que j'ai accès au métro?
Écoutez, bien, c'est ça. On n'est pas dans un mode de coercition. Là, on va permettre aux gens de rentrer en leur disant que si jamais il se passe quelque chose, évidemment, on va attendre aussi le décret. On ne connaît pas le détail. On ne sait pas ce qu'on nous demande exactement, mais normalement, on se parle, on veut répéter l'expérience qu'on a fait où on a amené de 0 à 60 % les gens à porter le masque. Okay. Donc, si on nous donne encore un peu de temps, je pense qu'on va y arriver.
Ben, je vous le souhaite et on se le souhaite tous collectivement parce que c'est une lourde responsabilité que vous avez à gérer, bien sûr, et gérer une population, c'est jamais évident, je pense. Merci beaucoup, monsieur.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Merci. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
On va aller au téléphone pour voir quelle est votre réaction tout de suite après la pause. Si vous voulez nous rejoindre au 514-790-9850 et au 1-866-790-9850, est-ce que vous croyez que, avec l'expérience que ce que l'on voit dans les établissements de débit de boissons, qu'on va être capable d'avoir un meilleur résultat de distanciation, de respect des règles sanitaires dans les transports en commun? On revient tout de suite.